Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Alice Desportes. Vous la connaissez peut-être sur les réseaux comme Lily aime le nougat. Elle est illustratrice, autrice. Elle a notamment illustré le livre de la parentalité créative de Catherine Dumontel-Crémer. Elle a aussi réalisé une bande dessinée sur la vie zéro déchet. Moi, je l'ai découverte avant tout pour sa BD « Les jolis sauvages » qui parle de son choix de l'instruction en famille et de son parcours. Vous avez pu aussi observer son coup de crayon sur les affiches pour les manifestations de la préservation de l'instruction en famille sur la région de Montpellier. Lise est en effet une personne engagée et dans cet épisode, nous allons parler de scolarisation, de déscolarisation, d'instruction en famille, aussi des positions politiques qui peuvent découler de ce choix et des réflexions autour de ce mode d'instruction. Et d'abord, je vais commencer par lui demander de nous raconter un petit peu le parcours justement sur ce sujet de réflexion pour arriver à l'instruction en famille. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Nous, on a commencé à réfléchir à l'instruction en famille par hasard quand notre enfant avait 3 ans, parce qu'une amie avait vu le documentaire de Clara Bellard et nous a dit « Oh là là, je pense à déscolariser ma fille, qui avait, donc sa fille avait 5 ans. » Et là, bah, moi, je me suis dit que... Elle était un peu folle, quoi. Pourquoi faire ça? L'école, c'est bon pour tous les enfants, comme certains disent. Mais en fait, on était quand même déjà dans une grosse réflexion sur ce qu'on voulait pour notre enfant qui avait 3 ans. Du coup, j'étais quand même très intéressée de discuter avec elle de tout ça. Et elle m'a montré le film. Et là, ça a été une grosse révélation de questionnement, je pense, pour moi et ce que j'avais été à l'école dans un premier temps. De me rendre compte, en fait, de mon parcours et de me dire mais à quel moment j'ai appris, j'ai profité ou j'ai subi. Enfin, est-ce qu'on m'a pas volé une partie de mon enfance en m'obligeant à rester assis à une chaise, en prenant vraiment sur des trucs comme des matières comme les langues vivantes qui m'ont jamais intéressée. Et je calculais les nombres d'heures que j'étais restée assise sur ma chaise et j'étais là, mais oh, c'est dingue, j'ai passé autant d'heures assise sur une chaise à écouter des trucs qui ne m'intéressent pas, j'en ai rien retenu. Aujourd'hui, si je parle un peu anglais, c'est parce que je regarde des séries et c'est tout, quoi. Ça n'a aucun rapport avec les cours d'anglais que j'ai fait. Et donc, ce premier cheminement sur moi-même m'a vachement interpellée. Et comme notre fils est entré à l'école en maternelle en parallèle, ça a commencé à nous interpeller de lui le regarder parce qu'on était dans une crèche parentale avant, pour remettre un peu le contexte, et donc on était très présents. On avait une obligation d'une demi-journée par semaine là-bas, donc on savait exactement ce qui se passait. Puis en fait, on gérait la crèche entre parents, donc on discutait, on connaissait hyper bien les salariés, on se voyait. Enfin, il y avait un truc hyper familial, et là, bam, d'un coup, on a notre enfant qui va à l'école. Puis alors en plus, sa rentrée s'est passée pendant les attentats du Bataclan, et donc. L'enfant qui est tout petit, on te dit, tu le déposes devant la grille et tu l'accompagnes même pas jusqu'à ta classe. Alors un gros choc pour mon conjoint. Elle me dit, bon, vole mon fils, vraiment juste de ne pas avoir ce droit de l'accompagner. Ça l'a vraiment, vraiment touché. Et puis de commencer à réfléchir vraiment voilà, pour lui. Donc là, on est parti sur des livres et des livres et des livres. Donc on voulait tout voir tous les livres qui étaient sur l'instruction en famille, comprendre pourquoi les gens faisaient ça. Et plus on lit, plus on est là. Oh mon Dieu, mais il y a une justesse, en fait, dans le fait que les apprentissages, ben, ça doit être dans l'enthousiasme, vraiment, que l'enfant doit être moteur de ses apprentissages, et qu'en fait, c'est ce qu'on a observé pendant 3 ans, que ça répond juste à, on l'a vu apprendre à marcher, apprendre à parler naturellement dans l'enthousiasme, et ça, c'était super. Donc, pourquoi, en fait, d'un coup, on modifie ça? Et donc là, grosse, grosse réflexion. Et là, on se dit... Ok, on aimerait bien le faire, mais bon, comment on fait professionnellement? Parce que bon, on est en région parisienne, la vie coûte un bras. En parallèle de ça, mon conjoint voulait déménager, donc on a à la campagne, lui, enfin à la campagne, dans une ville moins grosse que Paris. Donc on a déménagé à Montpellier tout en réfléchissant à tout ça. Et là, à force d'en parler autour de nous, on arrive à Montpellier. La sœur de mon conjoint habitait à Montpellier avec deux enfants et elle nous dit, ben, moi, je suis, ben, ça me parle vraiment ce que vous dites. Si vous voulez, on le fait ensemble et puis on s'organise ensemble et tout ça. Et donc là, on pensait avoir, on s'était dit au début, on va peut-être voir la maternelle tranquille, voilà, c'est compliqué pour nous. Et ben, d'un coup, hop, on s'est lancé quelques mois plus tard, on s'est lancé en instruction en famille. Et on a fait ça pendant presque 3 ans. Du coup, entre les 3 et 6 ans de mon petit et la petite, elle avait entre 1 et 3 ans. Donc, ça reste sur du, on l'a fait sur du, vraiment des enfants en bas âge, avec la particularité qu'on n'était pas contrôlé, puisqu'à l'école, à l'époque, l'instruction n'était pas obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans. Donc, nous, on n'a jamais été contrôlé, mais on a passé 3 superbes années. Alors, le fait est qu'en fait, on n'a pas continué avec ma belle-sœur parce que c'était compliqué, parce que les enfants n'avaient pas le même âge, pas les mêmes besoins. Donc, très rapidement, on l'a fait juste nous. Mais on était organisé avec 2 jours où je m'en occupais, 2 jours où mon conjoint s'en occupait, et un jour, on avait trouvé une asso qui s'occupait des qui prenait des enfants IEF pour faire de l'art une journée. Ce qui était super, parce qu'ils avaient une journée, mais ça, voilà, c'était super équilibre. Et on a, ouais, c'était super. On a vraiment aimé. Et l'asso a fermé, mon conjoint a une obligation de travailler plus, donc on s'est retrouvé avec 2 jours de manque, et donc on a dû re-questionner notre équilibre, et c'est là où on a décidé de les mettre dans une école alternative en fait. Mais donc voilà, ça c'est vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé pendant mais après je peux continuer, parce qu'en fait là je raconte un peu le cadre de la bande dessinée, et en fait ce que je dis avec la bande dessinée c'est que donc on les a mis en école alternative, et là aujourd'hui ça fait 3 ans qu'ils sont dans une école alternative super qu'on adore, qui est ce qu'on appelle un peu une école du troisième type. C'est peu connu, mais ça a beaucoup de mérite, où l'enfant est vraiment moteur de ses apprentissages dans un milieu coopératif. Et là, en fait, comme on a décidé de déménager à la campagne pour de bon, on reprend l'instruction en famille, on a retrouvé un rythme, et dans 3 semaines, c'est reparti, en fait.
Donc là, c'est le retour à l'instruction en famille, mais qui, pour le coup, si je comprends bien, est motivé plus par un choix de logistique pratique par rapport à un nouveau déménagement, c'est ça ? Plutôt que par une déception potentielle de l'école qui, visiblement, se passe très bien.
Ouais, il n'y a aucune déception de l'école, c'est super. Mais voilà, on avait envie de campagne. Et mon conjoint avait vachement envie quand même de reprendre l'instruction en famille. Et en fait, dans ce nouveau modèle, il sera complètement en charge des enfants. C'est lui, moi je travaillerai, et c'est lui qui sera le père qui fait l'instruction en famille. Donc voilà, parce que moi, pour moi, c'était, on le faisait du 50-50, pour moi en tout cas, j'avais trop besoin d'avoir une partie pour mon travail, alors que lui, il avait cette vraie envie d'essayer de se plonger là-dedans et de prendre ce temps-là.
Alors ça, c'est quelque chose que pour le coup, qu'on ne rencontre pas partout, d'avoir ce modèle-là, et je trouve ça chouette, et je trouve ça très beau même. Et donc, si je comprends bien, ton conjoint, lui, au niveau professionnel, il a comment est-ce qu'il pense, comment est-ce que vous allez vous organiser pour son travail à lui ?
Eh bien, il arrête de travailler.
Ok.
Ouais. Non, il a... En fait, il se met en disponibilité.
D'accord.
C'est de s'autoriser aussi à changer d'avis plus tard, donc on ne veut pas tout couper. Et en tout cas, l'idée, pendant 1 ou 2 ans, vraiment, comme on va vivre à la campagne, parce que les contraintes financières, elles sont quand même très très fortes en IEF, hein, on en revient toujours, mais voilà, il fallait que notre équilibre financier y passe. Et la vie à la campagne nous coûtera moins cher, se loger nous coûtera beaucoup moins cher. Et donc, mon salaire, qui n'est pas bien gros, mais qui devrait suffire, et comme ça, lui, il peut se permettre de ne pas travailler pour être disponible pour les enfants.
Oui, c'est vrai que l'aspect financier, c'est toujours quelque chose qui peut être perçu comme un gros frein. Et la solution, en effet, de la vie à la campagne, c'est quelque chose qui permet de vite lever, en tout cas, des gros budgets, en fait, de vite dégager des sommes assez importantes. On n'y pense pas forcément. Mais on peut avoir, plus on s'éloigne quand même d'une ville, enfin plus on arrive dans la campagne, bah plus la charge financière en effet qui tourne autour du logement notamment est plus légère. Et justement, on peut se retrouver avec des logements qui sont tout à fait agréables et qu'on peut ensuite aménager d'ailleurs pour faire plein d'activités à des prix plutôt très abordable, donc c'est chouette, en tout cas c'est une belle nouvelle. Et comment est-ce que dans ce nouveau parcours en instruction en famille, comment est-ce qu'il se projette, vous projetez au niveau de l'organisation des activités, parce que là, si je me trompe pas, ça amène un grand à 9 ans, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Et une petite à 6 ans.
Ouais.
Et alors, comment est-ce qu'il se projette au niveau de, ben, justement, dans la gestion des futurs contrôles, dans l'organisation, comment est-ce que ça se prépare ?
Alors, nous, on prépare pas trop. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il faut voir que nos deux enfants, alors, ils étaient dans le cadre de cette école alternative, mais dans cette école, ils ont appris à lire tout seul, en fait. C'est une école où il n'y a pas... Enfin, c'est marrant. On lui donne le nom d'école, mais pour moi, c'est plutôt un lieu de vie collectif avec des enfants. Et en fait, leur apprentissage de la lecture, il s'est fait naturellement. Donc, en fait, une fois qu'on voit ça, c'est juste dingue de voir des enfants qui apprennent à lire seuls, là. Ma fille, là, c'est le début, mais c'est merveilleux, quoi. Jamais elle a appris l'abécédaire ou quoi que ce soit, et bam, d'un coup, elle lit, quoi. Elle l'a appris parce que, voilà, enfin, naturellement, quoi, juste dans les discussions, parce qu'elle se pose des questions des fois sur les signes, et c'est tout, quoi. Du coup, on est super confiants, quoi. Tout peut être appris, quoi. Donc, là, l'idée, c'est juste déjà prendre le temps, nous, d'arriver, nouveau rythme, nouveau lieu, et puis vivre avec eux. Et puis, en fonction, peut-être pas créer de l'apprentissage vraiment. Mais ouais, réfléchir après dans nos journées à quelle activité on leur propose ou pas, en sachant au fond de nous que certaines activités amènent de l'écriture parce qu'on écrit à mamie ou ce genre de trucs là, quoi. Mais notre idée, c'est vraiment de rester autant que possible dans quelque chose proche de l'informel, en fait. Ouais, on l'a pas vraiment cadré. Puis après, notre super joker, faut avouer quand même là-dedans, c'est que dans notre maison à la campagne, en fait, nos voisins seront l'institutrice actuelle des enfants, avec qui on est devenus très amis, et qui est une nana incroyable. Et on se dit que c'est vachement rassurant d'avoir comme joker la personne à qui on peut aller poser des questions quand on se pose un peu, quand on sent qu'il y a des choses qui sont compliquées.
Ouais, c'est rassurant, c'est clair que c'est un très très beau joker, et puis en plus c'est quelqu'un que les enfants connaissent déjà, donc tu vois, en termes de, si par exemple elle devait venir potentiellement filer un coup de main dans comment mener une activité, il y a déjà ce lien qui existe, c'est en effet un sacré joker que vous avez.
Ouais, félicitations. Ouais, c'est clair, c'est super bonne idée, c'est pas qu'elle le fasse, mais voilà, quand on a des doutes, quand on sent bien qu'il y a des choses qui sont plus compliquées, je pense qu'elle sera source de clé là-dessus. Et puis on a déjà pris contact avec les gens qui font l'IEF dans le département, déjà pour créer le réseau avec les enfants, rencontrer d'autres enfants, et puis rencontrer les parents, parce que c'est quand même aussi une grande source pour nous de discuter avec les autres parents, de voir chacun comment il fait. Donc ouais, mais on est vraiment... On attend de voir, on n'est pas stressé, on sait que les choses se font naturellement, en fait. Ça, c'est un peu ce que nous a prouvé finalement les 6 dernières années, c'est que tout se fait en temps et en heure si on laisse les choses arriver au bon moment.
Je te rejoins à plein de pourcents. C'est marrant, parce que tu parles de prendre contact avec d'autres parents, la SOIEF, de voir des gens. Moi, j'avais cru comprendre en écoutant parler Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin, que pourtant, l'instruction en famille, c'était plutôt quelque chose où il n'y avait pas de sociabilisation, où on était très dans un entre-soi, très, très fermé, où on ne rencontrait pas trop de gens. Comment ça se fait ? Tu veux dire que tu vas voir des gens ?
Et oui, okay. On a prévu de communiquer avec d'autres personnes et que nos enfants aient des relations, quoi. C'est assez incroyable, mais c'est, les parents IEF parfois font ça, quoi. Ouais, on a même prévu de retourner à Montpellier toutes les 6 semaines, on a dit aux enfants dans un premier temps, pour garder contact avec les copains sur place. Et puis après, nous, on adore accueillir les gens globalement chez nous. On aime bien vraiment être un lieu d'accueil, et la maison sera propice à ça. Donc notre but aussi, c'est voilà, d'avoir les copains qui passent avec leurs enfants. Moi, enfin, quand je me projette dans mes rêves, toi, pourquoi j'aimerais trop qu'on puisse aussi créer des lieux d'accueil IEF. Vraiment, il en existe quelques-uns en France, pas beaucoup, où tu as deux jours par semaine. Souvent, c'est des mi-temps parce que le lieu ne fait pas apprentissage. C'est vraiment juste un lieu où des enfants peuvent se retrouver, puisque l'apprentissage est à la charge des parents, bien sûr. Mais du coup, pendant 2 jours par semaine, avoir des lieux collectifs où les enfants se retrouvent de façon régulière, voilà. Moi, ça me tourne dans l'esprit. Là, on arrive, donc on y va en douceur, voilà. Comme je dis, je fais vraiment les choses dans un rythme, mais Mais dans mon coin de tête, j'aimerais bien créer des trucs sur l'instruction refamille là-bas, quoi.
C'est en effet un beau projet, pour le coup. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Je suis ravi que vous soyez l'exemple, quand même, que même en étant à la campagne, assez isolé, entre guillemets, si tu veux, d'une grande ville, vous puissiez trouver facilement, de ce que je comprends, des contacts, que ce soit par les associations ou en local, ou tout simplement par le réseau social que vous aviez créé avant de retourner en IEF. Comme quoi, c'est pas inaccessible, et voire même ça peut être très facile. Moi, c'est quelque chose sur lequel je voudrais un peu lever le mythe, parce que c'est une espèce de légende urbaine qui est entretenue par le discours du gouvernement aujourd'hui, alors que être en IEF et avoir des contacts sociaux, c'est extrêmement facile aujourd'hui, notamment aussi grâce aux réseaux sociaux, parce que concrètement, le nombre de groupes Facebook d'asso IEF local ou de réseau IEF local, c'est assez impressionnant, et ça aide beaucoup, je trouve.
Ah ouais, enfin, nous, je me rappelle déjà à Montpellier, c'était. En fait, il y en avait trop. On pouvait. Même mon fils, à la fin, il en avait marre, quoi. Il n'avait pas envie qu'on fasse des trucs tout le temps. Il voulait rester à la maison un peu tranquille. Et là, pareil, donc je suis le groupe du département. Et ils se voient déjà une fois par semaine. Ils ont un rendez-vous qui est fixe une fois par semaine. Et en plus de ça, toute une proposition tout sur le reste de la semaine de personnes qui disent nous, on va faire ça, nous, on va faire ça. Puis une facilité de dingue de trouver des gens. Et ça, c'est dans ce groupe. En plus, j'arrive dans un. Enfin, le hasard a fait que l'année dernière, j'ai fait un stage sur les écoles du troisième type, du coup, avec des professeurs du troisième type. Et il y en a un avec qui j'ai sympathisé. Et en fait, il habite là-bas et ses enfants sont en IEF. Donc lui, il est. C'est ce que je souhaite dire, quand même, il est professeur qui pratique du troisième type dans une école publique, ce qui est quand même de plus en plus rare. Et ses enfants sont en instruction en famille. Et donc voilà. Donc en plus, voilà, j'avais un brin de connaissance. Enfin, tout ça. Enfin, je m'inquiète. Alors, ça, moi, c'était mon inquiétude avant qu'on commence, vraiment. Je comprends que les gens soient inquiets sur ce sujet-là. Mais dès qu'on a commencé l'instruction en famille, ça s'est évaporé en 2 secondes. On voit tout le temps des gens, tout le temps, tout le temps. Puis, comme on est dispo, on bouge, les gens viennent chez nous vachement plus. Avec les vacances scolaires, de toute façon, ne sont pas les mêmes. Donc, on a toujours des copains qui viennent de quelque part d'autre. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on avait du monde tout le temps, quoi. Là, au contraire, l'instruction en famille, enfin, je pense qu'en termes de socialisation, On est large, quoi.
Non, mais complètement. C'est vrai que c'est quelque chose. C'est quelque chose, moi, je trouve, qui est génial, parce que ça s'adapte aux enfants, mais ça s'adapte aussi aux parents. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir des familles où t'aimes pas forcément être en contact permanent avec des gens, ce qui n'empêche pas que tu peux amener tes enfants à des activités et puis toi te ressourcer. Enfin voilà, ça ouvre le champ des possibles, en fait, je trouve. Tu vois, en termes d'organisation de vie. Pour les enfants, mais comme pour les parents aussi. Il y a des gens qui ont tendance à présenter ça comme une contrainte permanente, parce qu'en fait, on s'imagine que l'instruction en famille, c'est forcément être toujours, toujours avec ses enfants derrière eux, en train de s'assurer qu'ils sont en train d'apprendre, alors que... Alors, potentiellement, il y a des modèles d'instruction en famille qui sont comme ça. Il y a différents chemins d'instruction en famille. Vous, tout comme nous, vous faites le choix de d'un apprentissage très informel, clairement du unschooling poussé, quoi, vraiment de l'apprentissage autonome. Mais c'est vrai que les gens s'imaginent souvent les parents comme ça derrière les enfants en train de s'assurer qu'ils sont en train d'apprendre un truc, alors que pas du tout. C'est plutôt on fait notre life et comme le dit d'ailleurs André Stern dans notre épisode ensemble, apprendre c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui nous arrive. Et c'est vrai que quand tu pratiques l'instruction en famille comme ça, c'est quelque chose qui devient évident.
Ah ouais, c'est ça. Tu passes 15 jours à te poser un peu des questions et puis hop, après, en fait, ça se fait naturellement. Et alors, il y a vraiment un truc aussi, enfin moi, pour avoir fait un petit peu d'école, IEFRE, un peu d'école, et j'ai hâte, mais hâte de repasser en instruction en famille pour arrêter de lever mes mômes, quoi. En termes de contraintes journalières, ouais. Là, puis se rire, quoi, courir, aller les chercher, les déposer, les lever, les forcer, ça râle, c'est... Putain, mais ça, c'est de la contrainte de dingue, quoi. Et on en a 4 jours par semaine. Moi, je trouve ça vachement plus léger, de leur faire à manger le midi naturellement avec eux. Enfin, c'est pas les mêmes contraintes. Il y a des contraintes dans les deux, mais faut vraiment se rendre compte qu'il y a quand même des contraintes hyper fortes aussi avec l'école et que les contraintes en instruction en famille, elles existent. Alors, en plus, chaque famille se les met différemment. On n'a pas les mêmes curseurs. Mais justement, en fait, on va choisir les contraintes qui nous correspondent à notre rythme à nous. Et ça change vachement la contrainte de l'avoir choisi.
Non, mais complètement. Et c'est vrai que le respect du rythme, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, qui est très libérateur. Et quand on parle des contraintes, en effet, les contraintes de l'école, c'est compliqué au niveau du rythme. Et au niveau, que ce soit au niveau du rythme des enfants ou des parents, hein, c'est vraiment pas facile à mettre en place. Hein. Faut l'intégrer dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. C'est pas forcément évident. On parlait des contraintes financières tout à l'heure. Je tiens quand même à rappeler que l'école a aussi des contraintes financières. C'est important de le rappeler pour celles et ceux qui se poseraient la question du choix d'instruction en famille. Veillez quand même à bien peser combien coûte l'école, que ce soit en termes de déplacement, en termes de fourniture. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément, mais l'école, ça a un coût quand même pour les familles. Et je voulais juste préciser, tu vois, pour la balance financière qui peut être importante. Et quand on se dit ça, donc là on s'est quand même beaucoup parlé de votre retour à l'instruction en famille. Tu évoques le fait que vous allez revenir sur Montpellier toutes les 6 semaines à peu près. Ça, c'est une vraie question qui m'est venue tout de suite là quand tu m'as parlé du fait d'arrêter cette école et de déménager. C'est comment est-ce que vos enfants, pour le coup, qui ont construit un tissu social dans leur école actuelle, vivent le fait de déménager et de ne plus forcément voir aussi souvent leurs camarades?
Ils sont vraiment sur un entre-deux. Alors le grand, en plus, il a vraiment conscience, lui, qu'il va se refaire des copains, parce que finalement, il a déjà déménagé de Montreuil, il s'en rappelle, donc il sait donc ça le rend triste de quitter ses copains, mais il sait qu'il va réussir à reconstruire quelque chose. Lui, il a très envie de la campagne, vraiment. Donc ça, c'est... Et il a envie vraiment de l'instruction en famille, parce que, pour le coup, le rythme de l'école, ça lui convient pas. Enfin, voilà, c'est un gros dormeur. Enfin, il aime faire les choses à son rythme. Et quand on fait les choses à son rythme, c'est tellement limpide et facile. Alors que quand c'est fait avec... Ça complique tout, en fait. Le cadre du matin et le cadre du soir, on arrive sur des moments où il est fatigué, pas disponible dans nos relations, qui complique tout. Alors que, voilà, je sais que lui, c'est... Et il le sent aussi. Donc ça, au fond, lui, il est vraiment content. Il nous a demandé un truc, il nous a dit « Bon, alors le seul truc que je veux, si on fait ça, c'est « je veux un cochon ». Donc bon, à voir ce qu'on va faire avec cette histoire. Je ne sais pas si le cochon d'Inde, ça passe, mais bon. Mais voilà, donc lui, vraiment, ça roule. Il a même fait un espèce de calendrier de l'Avent, il coche les cases jusqu'à la fin de l'école.
Et, ah ouais, quand même.
Ouais, on est bien, bien content quand même. Et ma fille, elle, hyper dure au début. Parce que je pense qu'elle n'arrivait pas du tout, elle a 6 ans, à se projeter en fait sur ce que serait la suite. Quand elle a visité la maison à la campagne, elle a trouvé ça super, mais en fait, elle n'arrive pas à se dire qu'on va y amener nos meubles. En fait, j'ai compris ça au bout d'un moment en discutant avec elle. Elle me dit, ouais, mais moi, j'aime pas leurs chaises et les tables, je préfère les nôtres, quoi. Elle était là, ah, mais enfin voilà, qu'il y avait des trucs en fait qu'elle savait pas ce que c'était qu'un déménagement parce qu'elle avait 1 an quand on l'a fait et donc elle comprenait pas. Elle pensait qu'on changeait de maison, qu'on changeait de meubles et voilà. Plein de choses comme ça. Donc, il a fallu la rassurer sur plein de petits trucs, de dire qu'on emmenait tout, que les amis, en fait, quand on a des vrais... En plus, nous, dans l'école, on est souvent amis avec les parents. Et lui dire, mais en plus, nous, on est amis avec les parents. Donc, il y a vraiment pas de raison qu'on perde de vue les amitiés. Elles seront plus au quotidien, mais elles existeront. Et c'est là qu'on a parlé, justement, de dire qu'au début, en tout cas, on leur a dit, ce serait peut-être pas toujours comme ça. Mais comme ça, 3h30 de route de Montpellier, qu'on a plein de connaissances là-bas, et ben on peut faire un truc où on se dit, ben on y va vraiment régulièrement. On a des temps programmés avec les copains vraiment réguliers pour un peu se rassurer là-dessus le temps qu'on crée et qu'on tisse notre nouveau réseau là-bas, quoi. Du coup, aujourd'hui, elle en parle, elle est hyper enthousiaste. Voilà. Mais ça a été un peu dur. Hein. On est vraiment passé par un moment où, pour être honnête, elle était super malheureuse, quoi. Mais maintenant, elle est, voilà, je crois que c'est bien fait. Et même, elle coche les cases avec son frère sur le calendrier de l'avant du départ. Donc, je trouve ça plutôt positif, quoi.
Ah oui, c'est quand même... c'est un beau signe positif. Bah, en effet, c'est vrai que quand on se met un petit peu dans la peau d'une enfant de 6 ans qui n'a jamais connu de tels changements, en tout cas, qui n'a pas à s'en rappeler, il y a plein de choses qui peuvent, en effet, faire peur. Donc, ça me semble tout à fait logique. Et puis... c'est toujours pareil, c'est quand elle aura c'est quand elle va découvrir tous les avantages aussi de la nouvelle vie que sûrement ça va aider, parce que c'est vrai que cette histoire de rythme, c'est quand même quelque chose qui est important. Si on revenait un peu en arrière, au niveau de la première expérience IUF que vous avez eue, Donc, vous aviez une organisation avec votre belle-sœur que vous aviez arrêtée ensuite, c'est ça?
Ouais.
Et moi, la question que je voudrais poser, c'est quand on se parle de rescolarisation, pour le coup, on fait le chemin à l'envers, mais c'est pas grave. Quand on se parle de rescolarisation, comment est-ce que, au-delà du fait qu'il y avait les contraintes professionnelles et matérielles de la vie qui étaient ce qu'elles étaient, qu'il n'y avait pas le choix de faire avec, comment est-ce qu'au niveau des enfants, et surtout en l'occurrence du grand, ça s'est passé pour parler de scolarisation, d'aller à l'école, comment cette étape a été franchie?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, on a eu un contexte qui était quand même vraiment pas mal au début. C'est que quand on a eu ces contraintes, ma belle-sœur quand même avait donc avec ses deux enfants, elle entre-temps avait mis ses deux enfants dans une école démocratique où elle était facilitatrice là-bas 2 jours par semaine. Et donc, en fait, au début, il nous manquait nous 2 jours par semaine. Et donc, au début, les enfants, ils sont allés 2 jours par semaine, les jours où leur tata était là, dans cette école démocratique pendant 4 mois, avant qu'on aille dans l'école alternative en temps plein, où là, il n'y avait plus les cousins, dans un autre contexte. Et voilà, donc, où il y a une transition qui était vachement douce, en fait, pour eux, comme c'était, voilà, 2 jours par semaine avec la tata qu'ils adorent, le cousin, la cousine, ils se sont fait des copains à cette école démocratique. Et l'école, en fait, troisième type, c'est monter dans la foulée de l'école démocratique parce qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas pour pas mal de familles. Donc, en plus, quand l'école alternative, la troisième type, s'est construite, c'était le même groupe d'enfants. Donc, ce groupe d'enfants qu'il avait construit à 2 jours par semaine, il les a retrouvés dans la suite. Donc, il y a vraiment un truc qui s'est fait par petites étapes et qui a été assez limpide, quoi.
C'est encore un beau coup de chance.
Ouais, franchement, on a de la chance. Enfin, moi, je trouve que le parcours, pour l'instant, je croise les doigts, mais on est content pour eux. Je les sens hyper bien dans leur vie. Enfin, ça roule, quoi. Ça va nous prendre l'énergie, parce qu'à chaque fois, quand même, il faut voir que ces écoles, c'est 20 minutes de voiture. Hein, c'est pas l'école du quartier où on y va à pied. Donc, nous, on est au centre-ville, on prend la caisse, on se tape les bouchons, tout ça, tout ça. On revient en retour pour bosser. Enfin, voilà. C'est tout ça demande une énergie. C'est des écoles où, en tout cas, l'école qu'on a fait pendant 3 ans, là où nous, on parents, on gérait tout. Donc, mon conjoint, il était président de l'asso. Ça, c'est des heures et des heures de bénévolat. Des écoles où il n'y a pas de cantine, donc tu fais un pique-nique tous les matins. Voilà, c'est pas non plus. Ça demande beaucoup de soi, mais quand tu sais pourquoi tu le fais, ça le vaut largement. Et ça nous l'a tout à fait pendant 3 ans avec grand plaisir, quoi. Mais on est trop content maintenant aussi de quitter cette partie de contrainte et d'arriver à la partie, de retrouver la partie instruction en famille.
Ouais, je comprends. C'est vrai qu'il y a tout ce côté quand même de liberté d'organisation qui est assez. Ben en fait, c'est ça le truc, c'est qu'une fois que tu as goûté, c'est difficile de s'en passer. Ouais. C'est difficile de revenir à autre chose, quoi.
La liberté des vacances, la liberté de ce que tu fais chaque jour, la liberté d'être tout mou un jour quand t'es tout mou. En fait, tu respectes ton rythme, mais autant des enfants qu'à toi, je trouve. Parce qu'il y a des journées où tu vas être hyper active, leur proposer 10 000 activités, t'es trop dispo, c'est super. Et puis les journées, en fait, qui sont trop fatigantes, et ben, t'as le droit de te mettre en retrait. En plus, les nôtres, ils commencent à avoir un âge où ils sont capables aussi d'avoir des temps où ils s'occupent vraiment. J'ai hâte de goûter ça aussi, parce que je pense que l'instruction en famille, de quand ils avaient... 2 et 5 ans, ça n'a rien à voir avec un 6 et 9, quoi. Donc, ça va être une autre manière pour nous d'aborder l'instruction en famille, avec des temps, je pense, où ils seront moins demandeurs, donc plus de pauses. Enfin, ah non, je suis hyper contente de retourner à ce rythme qui est vachement, vachement naturel, en fait.
Bah, c'est vrai que pour le coup, tu soulèves un point qui est extrêmement important, c'est justement, ils sont plus dans la petite enfance en ce qui te concerne, et c'est vrai que l'organisation des activités, c'est totalement autre chose, et puis il y a une certaine autonomie aussi dans la recherche des informations, Moi, ce que je constate, c'est à quel point des enfants, notamment à partir de 9 ans, peuvent se créer eux-mêmes des activités, en fait. C'est assez fou. Et puis aujourd'hui, on est aussi à une ère où ils peuvent aller chercher l'information eux-mêmes, potentiellement sur des outils numériques. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se passer qui sont très bien. Et c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand ils sont plus petits, le côté où toi t'as un coup de mou, moi je sais que les journées où tu vois où moi j'ai un coup de mou et où ma petite elle pète le feu et où elle est extrêmement sollicitante, ça reste des journées difficiles quand même, tu vois.
Ouais. Ben moi c'est ce qui faisait à l'époque que je voulais. Enfin il y avait mon travail, mais il y avait aussi ça qui fait que je voulais que faire deux jours, enfin un mi-temps. C'est que je trouve que des fois c'était tellement d'énergie que je savais que je ne serais pas capable de le tenir sur 5 jours par semaine sans risquer d'abîmer ma relation avec les enfants. Et que 2 jours et demi c'était super, j'en profitais à mort, mais que j'étais assez lessivée derrière pour ne pas être capable de faire le reste et que pour un équilibre de nous familialement avec les enfants et moi professionnel, c'était pas plus. Je pense que le confinement, mine de rien, nous a vachement remis dedans et c'était super, super, on a adoré. Et ça nous a fait vachement réaliser que cette différence d'âge avait fait évoluer l'instruction en famille aussi. Voilà. On l'avait déjà en tête d'aller à la campagne et tout, mais ça a fait qu'accélérer le truc en disant « oui, c'est sûr, ça va être super, quoi. Ça, on va trop en profiter, ils vont être libres de créer. » C'est comme tu dis, à 9 ans, là, le grand, en fait, en vrai, presque, tu proposes plus d'activités parce que toi, tes idées à toi, ça t'intéresse toi, mais pas lui. Et lui, par contre, en fait, il est capable de tout seul partir, se faire des BD de dingue, des heures de dessin, d'écriture, de lecture. Enfin, c'est génial de l'observer. Il manque pas d'idées, quoi.
Non, mais c'est ça. Je pense que la phrase que tu viens de dire, je la trouve très importante. Il ne manque pas d'idées, quoi. Et c'est une grosse crainte qu'on peut avoir, et qu'ont les parents, et que j'ai aussi, hein, concrètement, sur le fait de « est-ce que je vais réussir à occuper assez ? Est-ce que je vais réussir ça ? Est-ce que je vais réussir ça ?» Alors qu'en fait, c'est presque idiot de le dire, mais il suffit de vivre en fait. Il suffit de vivre, de s'accorder le temps de vivre, de faire une balade et de voir ce qui se passe, quoi. Je veux dire, une balade dans la forêt, ça peut se transformer en cours de SVT, ça peut être intéressant d'aller ensuite en rentrant à la maison, d'avoir cueilli des fleurs, de regarder ce que c'est ces fleurs dans un livre ou sur Internet. Enfin voilà. Tout s'auto-alimente comme ça parce que la curiosité et cette incroyable puissant fond de soif de connaissance des enfants est assez impressionnant, je trouve.
Ouais, et je pense qu'on s'en rend pas compte quand on les met à l'école, parce que moi je le vois bien, en fait ils sont tellement aussi épuisés de leur journée que les temps de soirée c'est pas aussi fort que quand on était en instruction en famille ou voilà, ou quand on a nos 2 mois d'été ou là avec le confinement, où je vois qu'en fait une fois que ça rentre dans leur routine, enfin c'est dingue, quoi, c'est dingue. Et avec ce truc aussi de savoir, moi ça c'est toujours un peu difficile, savoir lâcher quand toi tu vois des trucs intéressants, en fait tu as envie de les faire parce que ça te branche et que eux ils en ont rien à faire, et se dire en fait à ce moment là moi, ma feuille que j'ai ramassée dans la forêt, j'avais trop envie de savoir ce que c'était comme arbre, mais s'il en a rien à foutre, il faut que j'accepte qu'il en ait rien à foutre. Par contre, en acceptant qu'il en ait rien à foutre, 2 secondes après, je me rends compte qu'il est en train de faire du land art et de dessiner un truc avec, en fait, qu'il a quand même trouvé une activité. Et ça, c'est vraiment l'équilibre, je trouve, en parents IEF, de savoir à quel moment on les amène sur une activité, à quel moment on les accompagne, à quel moment on les lâche complètement, parce qu'en fait, ils n'ont besoin que d'eux-mêmes, et ce qu'ils vont faire, ça va être super. Mais on le sait pas encore, quoi.
Ben c'est ça, et ça vient d'eux, quoi. Donc c'est ça qui est beau. On laisse émerger, et je trouve ça. Enfin, moi, j'adore t'écouter parler de comment tu accompagnes, parce que pour le coup, c'est exactement moi la vision que j'ai. C'est-à-dire vraiment, si t'as besoin de moi, je suis là. Si t'as besoin que je t'amène un truc, je suis là. Et puis si t'as pas besoin, ben je suis pas là. c'est aussi simple que ça. On va arriver sur un sujet. Vas-y.
Non, je disais c'est aussi simple que ça sur le papier. Dans la pratique, c'est pas toujours aussi simple. Parce que nous, on a tout au travers, en fait, d'éducation qu'il faut savoir réfréner. En fait, savoir se mettre en retrait quand ils font un truc, moi, je trouve ça pas toujours facile, quoi. Ils écrivent un truc, t'as 10 000 fautes d'orthographe, et à un moment, tu sais qu'en fait, donner les fautes à ce moment-là, ça casserait le rythme d'écriture. Bah non, quoi. On corrige pas les fautes, on laisse comme c'est écrit, parce qu'en fait, ça apporte tellement plus tout ce qu'il est en train d'écrire que les fautes, ça sera dans un autre contexte que ça sera intéressant de les corriger. Et ça, c'est vraiment un gros travail je trouve, pour nous, parents, de savoir se mettre en retrait au bon moment.
Là, tu pointes un sujet qui est tellement important, c'est justement ce rapport que nous, on a pu avoir à l'éducation, parce qu'a priori, on sort, pour la grande majorité d'entre nous, de ce système éducatif qui pointe les fautes, qui pointe les erreurs, qui pointe ce qui ne va pas. Et on a tendance à croire que c'est comme ça que ça marche, et que c'est comme ça que le monde fonctionne, aussi parce que souvent, dans notre monde professionnel à côté, finalement, on a un copier-coller de ce qu'on a connu à l'école. Hein. C'est-à-dire que soit on est récompensé, soit on est puni. Donc, soit on a une prime, par exemple, soit on est réprimandé. Enfin, voilà, ça reste très binaire. Ça demande une telle remise en question sur de comment est-ce que nous, on aborde les choses. Et puis, clairement aussi, moi, je ne veux pas vendre de rêve aux parents sur ce qui peut se passer aussi. Ça, c'est des témoignages que j'ai pu avoir et c'est quelque chose que moi, j'ai vécu personnellement. C'est que quand on commence à appliquer ça à nos enfants, on commence aussi potentiellement à remettre en question comment est-ce que nous, on vit notre relation, notamment dans le milieu professionnel.
Ah bah, de toute façon, ce choix de l'instruction en famille, ce n'est pas que le choix de les apprentissages de nos enfants. C'est un choix de vie qui va avoir des répercussions sur plein d'autres sujets et notre manière de les regarder, en fait. À partir du moment où on se dit qu'en fait, l'instruction, c'est un droit, mais l'école n'est pas obligatoire, mettre les enfants à l'école, c'est un choix. Mettre les enfants dans un autre cadre que l'école, c'est un choix. Donc, on a des choix. Mais en fait, où est-ce qu'on a des choix? Ah, mais on a un choix là. En fait, il y a notre cadre culturel qui est vraiment un petit rond. Puis, en fait, le cadre des possibles, qui a un immense rond autour. Et puis, à ce moment-là, bam, d'un coup, on prend conscience de ça. Et alors là, on se met à déconstruire. Hein. Mais c'est ça qui est absolument génial, en fait. C'est que, de toute façon, les enfants, on apprend. Enfin, finalement, c'est eux qui nous apprennent. Moi, j'ai le sentiment, nous, on leur donne un environnement pour qu'ils apprennent tout seuls. Et en leur offrant cet environnement pour apprendre, nous, on se met à apprendre sur des tonnes de choses sur la vie. Moi, je dis souvent, mais parce que vraiment, je suis une meilleure personne depuis que j'ai des enfants, quoi. Je suis sûre que j'ai changé en bon, en positif, humainement, par mes enfants, quoi. Parce qu'ils m'ont appris plein de choses, quoi. Notamment la patience.
C'est vrai qu'on repousse les limites de la patience qu'on a et qu'on continue de repousser, je trouve. Mais en effet, je te rejoins encore une fois, c'est vrai que ce côté, comment est-ce qu'on évolue à partir du moment où on a des enfants, c'est assez dingue, c'est assez fou et ça amène des choses qu'on ne pensait pas forcément rencontrer dans nos vies. Et tu parles de liberté de choix et d'instruction obligatoire et d'école non obligatoire. Justement, ça amène sur un sujet qui est moins joyeux, mais qui n'en est pas moins important. Le 2 octobre 2020, Emmanuel Macron annonce que l'école va être obligatoire à partir de 3 ans, dans le cadre d'un projet de loi sur les séparatismes qui a depuis vu le jour, dont on connaît le contenu, dont on a entendu plein de choses. Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce ?
Oh bah, comme un coup de poignard, vraiment, quoi. Moi, je me rappelle avoir lu ça et avoir passé, je pense, vraiment une semaine avec cette boule de colère qui est là tout le temps. D'être totalement bloqué autour de ma colère, de me dire mais pourquoi et comment. Et puis après, on a suivi ça. Nous, on a écrit à l'intégralité des députés, l'intégralité des sénateurs. On a fait à notre échelle ce qu'on essayait de pouvoir faire, quoi. On a suivi tous les débats à l'Assemblée, donc rebelote la colère qui est là, hein, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Pour autant, je dois dire que les derniers débats, où la loi en fait est passée crème, hein, mais il y a eu des super discours de plein de députés qui, au début où la loi a été, où ça a été énoncé, n'étaient pas du tout sur cette position-là. Et je me dis que je pense qu'on a fait évoluer pas mal de gens quand même sur ce qu'était l'IEF en France aujourd'hui et qui étaient ces familles. Donc, enfin, voilà. J'essaie de tirer du positif parce que ça m'a fait du bien de me dire qu'il y a des gens là dans les députés qui ont fait des super discours et je pensais sincèrement qu'ils ont évolué. Enfin, de toute façon, comme ils le disaient. Mais après, il y a tous les gros clichés qui ressortent et rien ne passe et tout le monde vote comme des moutons et ça me rend dingue, absolument dingue. Mais puis, je vois pas le contexte, je vois pas pourquoi. J'ai vu passer une pancarte dans les manifestations UF et c'était arrêter de faire chier les gens heureux. et c'est con, mais ça m'a fait rire, quoi. C'est ça, mais quel est le problème, quoi. C'est le bonheur fait chier, c'est quoi. Ouais, je suis grossière, je suis désolée, mais ça me met un peu en colère.
Je mettrai un warning sur l'épisode sur la vulgarité. Non, mais c'est tu touches du doigt quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que je te rejoins aussi sur le fait que, mine de rien, bon, on verra bien comment finira cette loi. À l'heure où on enregistre, au jour où on enregistre, on est sur des débats au Sénat. Et pour le coup, le Sénat, a priori, va se positionner pour une suppression de l'article 21, mais avec d'autres amendements annexes, notamment sur le 21 ter, qui sont quand même assez chiants. Donc on va, le travail n'est pas fini. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de quand même très positif dans tout ça, c'est que ça a permis de mettre une grosse lumière sur l'instruction en famille. Dans un projet de loi qui, de toute façon, était globalement, on va le dire avec nos mots, c'est un gros tas de merde, islamophobe.
De nous pour l'instruction en famille, mais c'est tout est horrible là-dedans quand même. Hein. C'est horrible, horrible, horrible tout ce qui est fait autour. Enfin, c'est bon.
Mais ouais. ça a permis, je trouve, voilà, de mettre le projecteur, en tout cas là-dessus, et justement d'en parler, de montrer qui sont les familles en instruction en famille, parce que c'est vrai que les gens ne savaient pas, finalement, beaucoup, et beaucoup d'élus aussi ne savaient pas, entre ce qu'ils pouvaient lire dans les communications du gouvernement, c'est-à-dire l'instruction en famille, c'est une bande d'islamo-gauchistes radicaux, alors que pas du tout, hein. En fait, l'instruction en famille, c'est un panel aussi large que de représentation aussi large que la population de la France. Hein. Il y a de tout en instruction en famille, n'allez pas croire non plus que tous les gens qui font instruction en famille sont des bisounours, pas du tout, hein. Il y a aussi des choses, il y a tous les courants. On a aussi pu lire sur les réseaux que l'instruction en famille, c'était un hobby de riches femmes blanches. Bon, alors là, clairement, on a bien compris que c'était une grande méconnaissance et ignorance du milieu, hein, pour sortir des énormités pareilles. Mais c'est vrai que ça a permis, en tout cas, d'aborder le sujet sur le fond et sur la forme.
Ouais, nous, je vois même, on a été vachement touchés parce qu'on a envoyé des mails à nos copains qui savent qu'on fait l'instruction en famille, en plus, on n'a pas été trop jugés, hein, vraiment. Mais en fait, nos potes ont pris le temps d'écrire à leurs députés pour nous. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée, en fait. Des gens qui ne font pas l'instruction en famille, qui ne sont pas toujours d'accord avec tout, pourquoi on le fait, mais qui nous ont vraiment soutenus et ouais, qui prennent ce temps-là. Bah, ça m'a vachement touchée. Je me suis sentue soutenue globalement par plein de gens où je pensais qu'ils n'en avaient rien à faire et écoutée après par plein d'autres gens qui ont voulu en savoir plus. Enfin, ouais, globalement, je trouve que y a eu un truc positif autour de l'instruction en famille, vraiment. Il fallait bien ça pour compenser l'ignominie de ce qui se passait avec toute cette loi.
Non, bah alors ça, c'est hyper fort ce que tu racontes, parce qu'en effet, le fait que des gens qui ne sont pas concernés aujourd'hui directement se mobilisent aussi, ça, c'est hyper fort, c'est hyper beau quand même. Et c'est justement tout le sujet, je trouve, de la communication qu'on a dû porter et qu'on porte au niveau de la population, c'est de faire comprendre qu'une liberté, c'est pas parce que c'est justement la possibilité d'avoir le choix. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, ces gens n'exercent pas cette liberté dans leur quotidien qu'elle mérite d'être enlevée. Demain, ils ne savent pas ce qui peut se passer. Surtout quand on voit des chiffres très, très, très alarmants, notamment sur le harcèlement scolaire. Alors, on se parle quand même de 700 000 enfants par an qui signalent le harcèlement scolaire. Et on sait que c'est juste ceux qui signalent.
C'est ça,
Et tu vois, et c'est comme toute violence, hein. On sait que celle-là, c'est juste ceux qui signalent, donc c'est juste la face émergée de l'iceberg, tu vois, donc on va savoir ce qui se passe dessous, donc c'est compliqué, mais c'est chouette de voir des gens comme ça qui se mobilisent alors qu'ils sont pas en exercice concerné tout de suite, quoi, tu vois.
Ouais, et ça, il y en a eu, parce que je dis dans mes proches, mais même sur Instagram, en fait, quand j'en parlais, beaucoup, beaucoup de gens m'ont écrit, ont pris le temps de m'écrire pour me dire qu'ils étaient profs ou que leur enfant était scolarisé, mais que vraiment, que eux aussi se sentaient voler une liberté, et ça m'a fait vachement bien, en fait. Parce que finalement, on aborde rarement ce sujet, on a rarement des retours, enfin, c'est, voilà, de se rendre compte, en fait, que ça intéressait les gens, qu'ils prenaient conscience de leur liberté. Parce que pour moi, voilà, enfin, c'est un autre sujet global politique, quoi. Faut prendre conscience de nos libertés, les exercer et arrêter de se faire marcher dessus. Quand je dis ça, hein, je suis la première à avoir un espèce de syndrome du bon élève et avoir du mal à ne pas me faire marcher dessus. Hein, mais je sais qu'il ne faut pas. C'est déjà ça.
Le point que tu soulèves là est pour moi un point crucial. Et je dois bien reconnaître que, tu vois, par rapport à l'instruction en famille, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. C'est comment partir de la reconnaissance de ce qu'on pourrait appeler un privilège aujourd'hui, puisqu'une liberté qui ne peut pas être exercée par tous et toutes est un privilège, ça j'ai pas de débat là-dessus, mais comment partir de la reconnaissance d'un privilège en passant par une action militante et en faire une position politique. Tu vois, moi je vais juste, tu vois, sur ce sujet-là, je vais exprimer un peu le chemin de ma réflexion que j'ai eu et qui, mine de rien, que cette situation a fait évoluer, tu vois, c'est que donc il y a eu des personnes qui ont déclaré que les personnes d'instruction famille c'était juste des riches privilégiés. Bon, outre le fait d'une grande méconnaissance du sujet, prenons quand même le sujet et prenons conscience qu'en effet, aujourd'hui, l'instruction en famille, notamment pour des raisons financières, ne peut pas être choisie par tous et toutes. Et quand on chemine, je vais la faire courte, hein, donc quand on chemine et qu'on arrive à se dire « Ok, mais si la raison principale, c'est la raison financière, quelle position politique permet de lever cette raison financière ?» Tu vois, ben, ça te permet de te positionner politiquement, notamment sur un sujet tel que le revenu universel, par exemple, avec un revenu universel suffisant, hein, j'entends, pour vivre, ben ça permet aussi de dire, ben voilà, si le seul frein d'une personne qui aurait le souhait profond d'exercer cette liberté d'instruction en famille, c'est le point financier, le revenu universel est une position politique qui permet d'y répondre et de justement remettre de la liberté là où il y a du privilège.
Ouais, tout à fait. Ouais, en plus, ça vient en lien avec même toutes les charges ménagères qui sont aujourd'hui invisibilisées parce qu'elles n'ont pas de place financière, en fait. Ouais, tout ça se mélange, en fait, hein. Et ouais, c'est un privilège, hein. Ça je ne remets pas du tout en question d'arriver à faire de l'instruction en famille. Pour autant, moi j'ai tendance quand j'en parle à présenter ça comme un peu l'école alternative des pauvres, quoi. Parce qu'au prix des écoles alternatives, en fait, les gens qui n'ont pas les moyens, des fois ils voulaient une école alternative et ils vont faire le choix de l'instruction en famille parce qu'ils n'ont pas pu se payer l'école alternative. Parce que ça reste quand même généralement moins cher à mettre à place dans ta vie, parce que tu peux garder un peu les deux du travail selon ce quota. Enfin voilà, il y a des organisations qui permettent plus ou moins quand même de travailler. Parce que voilà, nous, on fait le choix d'un des deux qui ne travaille plus du tout, mais c'est pas toujours ça non plus. Souvent, il y en a un en fait qui travaille un peu de façon bancale sur des horaires un peu décalés, et l'autre qui voilà, enfin ou les deux. Enfin, mais voilà, je trouve ça, voilà, c'est un privilège, mais c'est un privilège. Qui est quand même fait par plein de gens qui ont des tout petits moyens. En instruction en famille, quand même, c'est vraiment... T'as des gens qui vivent pas mal d'amour et d'eau fraîche aussi, parce que c'est leur choix, vraiment, qu'ils le veulent, que ça leur convient comme ça, mais c'est important de le dire aussi, quoi.
Ah, mais complètement. Et c'est là où tu vois la grande méconnaissance, d'ailleurs, des gens qui peuvent tenir des propos de privilège de... Enfin, pour citer la phrase que j'avais lue de hobby de riche femme blanche, c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Et c'est vrai que, tu vois, en termes de position politique, justement, ça permet, je trouve, tu vois, d'avoir mené cette réflexion, de se dire, voilà, il y a des gens qui disent, puisque nous, on peut pas accéder à l'IEF pour telle raison, c'est logique que tout le monde aille à l'école. Ben, je suis désolé, ça pour moi c'est une position qui est liberticide et qui ne va pas dans le sens justement des valeurs de la République telles que moi je les perçois. Et j'espère que ça pourra aussi faire évoluer justement les réflexions sur le sujet.
Ouais, peut-être à commencer par avoir l'allocation rentrée par exemple, parce que les enfants en UF et
oui.
ont des apprentissages en fait aussi, c'est un peu le principe.
Et qui ont des coûts aussi, hein.
Ouais. Tu te permets d'acheter des livres pour ton enfant. Ça, c'est culotté quand même.
C'est quand même dingue. Mais, mais voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. J'invite bien sûr tous les gens qui nous écoutent à suivre ton travail, que ce soit sur l'instruction en famille, où tu avais d'ailleurs réalisé de magnifiques affiches, je crois, pour les manifestations de Montpellier.
Tout à fait.
et voilà, si toi tu avais un dernier mot à placer pour les gens qui sont dans la réflexion sur le sujet, ce serait quoi?
C'est que tout peut être réfléchi à tout moment. En fait, il faut s'autoriser à sauter une étape, ça ne veut pas dire que c'est pour toute la vie. Qu'on a le droit justement de faire des allers-retours en fonction de où on en est dans notre vie, de commencer quelque chose en se disant oui, mais je vais la re-questionner. Tout. En fait, il faut se re-questionner en permanence pour chercher quel est notre rythme et toujours chercher celui qui nous va bien. Et voilà, une décision, c'est pas pour toujours, quoi.
Ça me va très bien. Et justement, mais parce que ça illustre bien, je trouve, cette liberté de choix qui est essentielle. Merci beaucoup, Lise.
Ah, écoute, merci à toi.
À bientôt.
Ouais, avec plaisir.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.